J'ai 31 ans déjà, dit-elle, dont 15 se sont passés de la façon que vous voyez. Cela ne se marque peut-être pas au visage, mais c'est l'âme qui porte les rides. Moi aussi, Bouville, je vous garderai volontiers près de moi, s'il était possible. Hélas, madame, je vois ma mission finir et sans grand succès. Le roi Édouard me l'a déjà fait entendre par deux fois en feignant de s'étonner, puisqu'il avait livré le Lombard au Parlement du roi de France que je fusse encore là. Car le prétexte officiel à l'ambassade de Bouville était la demande d'extradition d'un certain Thomas Henry, membre de l'importante compagnie des Scalli de Florence. Ce banquier, ayant affermé certaines terres de la couronne de France, on l'avait touché les revenus considérables mais sans payer jamais ce qu'il devait au trésor, et finalement avait fui en Angleterre. L'affaire était sérieuse, certes, mais elle aurait fort bien pu se régler par lettre ou par l'envoi d'un maître des requêtes sans exiger le déplacement d'un ancien grand chambellan qui siégeait au conseil étroit. En vérité, Bouville avait été chargé de renouer une autre négociation, plus difficile. Monseigneur Charles de Valois, oncle du roi de France et de la reine Isabelle, s'était mis en tête, l'année précédente, de marier l'une de ses dernières filles, Marie, au prince Édouard, héritier d'Angleterre. Monseigneur de Valois, qui donc pouvait l'ignorer en Europe, était père de 7 filles, dont l'établissement avait toujours été pour lui l'objet de graves soucis. Ces 7 filles lui venaient de 3 mariages différents. Monseigneur Charles ayant eu au cours de son existence agitée l'infortune de rester 2 fois veuf. Il fallait avoir la cervelle claire pour ne point se perdre dans la confusion de cette descendance et savoir par exemple lorsqu'on parlait de Madame Jeanne de Valois qu'il s'agissait de la comtesse de Hainaut ou bien de la comtesse de Beaumont, c'est-à-dire de la femme depuis 5 ans de Monseigneur Robert d'Artois. Car 2 des filles, pour tout aider, portaient le même nom. Quant à Catherine, héritière du trône fantôme de Constantinople, et qui était du second lit, elle se trouvait avoir épousé en la personne de Philippe de Tarente, prince d'Arcahie, un frère aîné de la première femme de son père, un vrai casse-tête. À présent, c'était la première année de son 3e mariage que Monseigneur Charles proposait à son petit-neveu d'Angleterre. Monseigneur de Valois, au début de l'année, avait envoyé une mission composée du comte Henri de Sully, de Raoul Sevin de Jouy et de Robert Bertrand, dit le chevalier au Verlion. Ses ambassadeurs, pour acquérir les faveurs du roi Édouard II, l'avaient accompagné dans une expédition contre les Écossais. Mais voici qu'à la bataille de Blackmoor, les Anglais s'étaient enfuis, laissant les ambassadeurs français tomber aux mains de l'ennemi. On avait dû négocier leur délivrance, payer leur rançon, quand enfin, après tant de désagréables aventures, ils s'étaient trouvés relâchés, Édouard leur avait répondu de manière dilatoire, évasive, que le mariage de son fils ne pouvait être décidé si vite, que la question était de trop grande importance pour qu'il en tranchât sans l'avis de son Parlement, que le Parlement d'ailleurs serait réuni en juin pour en discuter. Il voulait lier cette affaire à l'hommage qu'il devait rendre au roi de France pour le duché d'Aquitaine. Et puis le Parlement convoqué n'avait même pas été saisi de la question. Aussi, Monseigneur de Valois, impatient, s'était-il servi de la première occasion pour dépêcher le comte de Bouville, dont le dévouement à la famille capétienne ne pouvait être mis en doute, et qui, à défaut de génie, possédait une bonne expérience de cette sorte de mission. Bouville avait négocié naguère à Naples et déjà sur les instructions de Valois le second mariage de Louis X avec Clémence de Hongrie. Il avait été curateur au ventre de cette reine après la mort du Hutin. Mais de cette période-là, il aimait peu parler. Il avait également accompli diverses démarches en Avignon auprès du Saint-Siège, et sa mémoire était sans défaillance pour tout ce qui touchait au lien de la famille, de l'entrelac infiniment compliqué des alliances dans les maisons royales. Le bon Bouville se sentait fort dépité de revenir cette fois les mains vides. « Monseigneur de Valois, dit-il, va se mettre en grand courroux, lui qui avait déjà demandé dispense au Saint-Père pour ce mariage. »« J'ai fait ce que j'ai pu, Bouville, dit la reine, et vous avez dû juger à cela de l'importance qu'on m'accorde. Mais j'en éprouve moins de regrets que vous. » Je ne souhaite guère à une autre princesse de ma famille de connaître ce que je connais ici. « Madame, répondit Bouville en baissant davantage la voix, doutez-vous de votre fils? Il semble avoir pris de vous plus que de son père, grâce au ciel. Je vous revois au même âge dans le jardin du palais de la cité, ou bien à Fontainebleau. » Il fut interrompu. La porte s'était ouverte pour livrer passage au roi d'Angleterre. Celui-ci entra d'un grand pas pressé, la tête rejetée en arrière, et caressant sa barbe blonde d'un geste nerveux qui était chez lui le signe d'irritation. Ses conseillers habituels le suivaient, c'est-à-dire les 2 le Despenser, père et fils. le chancelier Baldoc, le comte d'Arundel et l'évêque Dexter. Les deux demi-frères du roi, les comtes de Kent et de Norfolk, jeunes hommes qui avaient du sang de France puisque leur mère était la propre sœur de Philippe le Bel, faisaient partie de cette suite. Mais comme à contre-cœur. Il en était de même pour Henri le Lester, personnage court et carré, aux gros yeux clairs à fleur de visage, surnommé Torskoll, à cause d'une difformité de la nuque et des épaules qui lui faisait tenir la tête complètement de travers et posait de difficiles problèmes aux armuriers chargés de forger ses cuirasses. On voyait encore se pressant dans l'embrasure quelques ecclésiastiques et dignitaires locaux.